Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Eh bien oui, voilà que sur les ondes de Foi FM, la voix de la foi au Québec, c'est l'heure de l'émission Paroles en musique. Ici Raymond Perron et Mac Wickfield qui vous saluent d'abord et qui vous disent bien sûr que vous êtes, vous le savez déjà, plus que les bienvenus à cette autre édition. Bonjour à vous, mon cher Mac.
Bonjour Raymond.
Alors nous sommes toujours à l'abri de la croix, donc nous sommes bénis, nous sommes heureux. Pourquoi sommes-nous heureux? Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui nous ont révélé le Christ, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu qui est là. Il faut se rappeler ces choses importantes-là. On se laisse tellement souvent de fois distraire par les vicissitudes de la vie, oubliant que toutes les circonstances de nos vies ne sont que des servantes, hein? Envoyés par le Seigneur pour nous transformer, parce que on ne connaît jamais l'issue, la fin dernière des événements que Dieu va placer dans nos vies, mais nous savons que, selon ce que la parole nous enseigne, d'une manière ou d'une autre, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et ce n'est pas un cliché, c'est une réalité.
Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la musique, Raymond.
Amen. À quel point, ça, effectivement, c'est bénissant.
Ça nous rappelle, ça oui. Nous encourage.
Oui.
Sans la musique, la vie serait...
Sans musique.
Fade.
La vie serait fade, effectivement. Fade. Oui, et comment donc? Et d'ailleurs, on le voit depuis la nuit des temps, hein, l'invention des premiers instruments de musique qu'on retrouve tôt dans la Genèse. Nous avons été créés musicaux.
Oui, tout à fait.
Et c'est intéressant, hein, la Trinité, les trois temps, enfin, il y a toute chose, toute forme d'analyse qu'on pourrait faire. Vous êtes le spécialiste en musique, vous pourriez nous en parler très, très longuement. Pendant un certain temps, je croyais que c'était vous, d'ailleurs, qui aviez inventé la musique. Vous y connaissez.
Non, mais maintenant, vous êtes mieux instruit. Ce n'est pas moi.
Mais j'ai entendu dire que vous étiez un pianiste de grand acabit.
Ah bon?
Et j'ai entendu ça de bonnes sources, là. C'est pas des rumeurs.
C'est vrai.
Oui.
Oh. Alors... J'aimerais bien savoir oui.
Qui vous a trahi.
Cette nouvelle,
qui
oui.
Qui vous a trahi.
Mais qui aurait inventé cette histoire?
Ben, en fait, ça
m'amuse,
vraiment...
Je m'amuse.
J'ai entendu, comme je vous dis, d'excellents commentaires. Mais on apprécie grandement votre humilité en plus de votre talent musical. Alors, ce matin, nous nous retrouvons là où nous devons toujours être, c'est-à-dire au calvaire, n'est-ce pas, Mac?
Exactement. Nous arrivons à un de mes préférés dans nos chants aujourd'hui, Raymond. Un qui est plus récent que la majorité des cantiques que nous avons vu à Parole en musique, un chant qui s'appelle tout simplement « At Calvary ». Alors, je vais vous donner une traduction du chant avant d'écouter une première version ce matin. J'ai hâte à arriver à notre version parce qu'elle me plaît beaucoup. Mais la traduction d'abord. « J'ai passé bien des années à vivre dans la vanité et l'orgueil, sans être touché par le fait que mon Seigneur a été crucifié pour moi, sans savoir que c'était pour moi. » Qu'il est mort au calvaire. La miséricorde y était grande et la grâce était gratuite. Le pardon y a été multiplié envers moi. Mon âme encombrée y a trouvé la liberté au calvaire. Au moyen de la parole de Dieu, j'ai enfin appris mon péché. Alors j'ai tremblé devant la loi que j'avais repoussée, jusqu'à ce que mon âme coupable se soit tournée en suppliant au calvaire. Maintenant, j'ai tout donné à Jésus. Maintenant, je le reconnais comme mon roi. Et maintenant, mon âme ravie ne chante que du calvaire. Oh, l'amour qui a conçu le plan de salut. Oh, la grâce qu'il a rendue disponible aux hommes. Oh, le fossé énorme que Dieu a traversé au calvaire. La miséricorde y était grande et la grâce était gratuite. Le pardon y a été multiplié envers moi. Mon âme encombrée y a trouvé la liberté au calvaire.
C'est toujours frappant de voir à quel point ces cantiques-là sont inspirés des paroles bibliques, de la théologie biblique. Ces gens-là qui composaient, c'était pas une espèce de romantisme qui subitement leur montait à l'âme. C'est des gens qui étaient imprégnés de la parole de Dieu et ils la mettaient en leurs mots sur papier et bien sûr ils l'accompagnaient de musique. C'est la beauté des grands hymnes. Ce qu'on tend un petit peu à perdre, hélas, parfois dans des petits chœurs contemporains, sans vouloir être hyper critique, hein, on perd cette profondeur-là avec une musique un peu syrupy, là, je ne sais pas comment traduire ça, un tout petit peu, hein, bon, mollo, là. Un peu romantique, n'est-ce pas? Et parce qu'on chante l'amour de Dieu un petit peu pratiquement comme on chante l'amour humain maintenant, et c'est un peu pathétique qu'on est tombé dans ce genre de réductionnisme-là.
Les chants de nos jours, on a tendance à dire, mais c'est beaucoup plus personnel, moi j'exprime ce que je pense, ce que je ressens, mais il n'y a aucun chant qui a plus de personnalisme que dans ce chant. Oui. Alors, ça parle de moi, ça parle de ce que j'ai vécu.
Et ce qu'on devrait ressentir, c'est notre expérience de la parole de Dieu. Ça devrait toujours donc être inspiré de la parole de Dieu. C'est la raison, d'ailleurs c'est ce qui nous a motivés, vous vous souvenez Marc, lorsque nous avons discuté de ce projet d'émission-là, on s'est dit il va y avoir un aspect pédagogique au niveau de la foi, un aspect pédagogique aussi, qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? Ça veut dire chanter ses attributs. On n'en invente pas, ils sont révélés là dans sa parole. Et on voulait également ramener les gens à cette dimension que c'est pas parce que ces chants-là ont été rédigés au 17e ou au 18e qu'ils sont passés date, parce qu'ils expriment des vérités sempiternelles, hein, des vérités qui transcendent et les époques et les lieux.
Mm-hmm. Effectivement. Comme je vous ai dit, j'attends depuis un bon moment pour vous présenter cette version du cantique, car pour moi, il est évident que la famille qui chante, et c'est la famille Collingsworth qui va chanter pour nous, le chante de manière à vraiment jouir de la vérité qu'il renferme. Le chant est magnifique. Alors, écoutons-les donc qui chantent « At Calvary ».
Multiply to
mon cher Mac, absolument magistral, chef-d'œuvresque,
n'est-ce pas?
Majestueux, je vais le dire, tiens. Alors, revenons-en donc aux paroles et tentons de voir un peu ce qui s'en dégage. Première strophe nous raconte, nous dit ce qui suit.
C'est très... Excusez, c'est très personnel ce chant, je trouve. J'ai passé bien des années à vivre dans la vanité et l'orgueil, sans être touché par le fait que mon Seigneur a été crucifié pour moi, sans savoir que c'était pour moi qu'il est mort au calvaire.
Ça nous en dit long sur la marche d'un incrédule, d'un non-croyant. Alors, dans cette première strophe, l'auteur nous relate sa disposition d'esprit avant sa conversion. Nous avons en fait une très belle synthèse de la théologie des non-convertis, si vous voulez, et c'est précisément, d'ailleurs, la description que la Bible nous donne de l'être humain depuis la chute en Éden. Vanité et orgueil, c'est pas un très beau CV, mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Ça peut se manifester à différents degrés, bien sûr, mais chose certaine, c'est en filigrane de tout l'agir humain non régénéré. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. C'est une exhortation aux croyants, mais ça nous dit également ce qu'est un non-croyant. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Et là, le verset continue en nous disant comment marchent les païens, les non-convertis, qui marchent selon la vanité de leur pensée, le vide de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors nous avons tous les ingrédients ici qui font qu'un inconverti est un inconverti. D'abord, au lieu de marcher à la lumière de la vérité révélée en Dieu, ils marchent selon la vanité de leur pensée. Et ils marchent selon la vanité de leur pensée, conséquemment, l'intelligence n'a pas de lumière. Ils ont donc l'intelligence obscurcie. Et en conséquence, ils sont étrangers à la vie de Dieu, et là on nous donne des sous-causes encore, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On dirait qu'il y a une progression dans l'aboutissement là. Et ce n'est pas bien sûr sans nous rappeler Romains 1 qui nous dit que pour toutes ces raisons, ils sont inexcusables, anapologetus en grec, ils sont sans apologie, sans apologétique, sans excuse. La deuxième strophe maintenant.
Au moyen de la parole de Dieu, j'ai enfin appris mon péché. Alors j'ai tremblé devant la loi que j'avais repoussée, jusqu'à ce que mon âme coupable se soit tournée en suppliant au calvaire.
Alors comment est-ce que l'auteur, William Newell, nous dit qu'il en est venu à son apprentissage? Ben c'est par la parole de Dieu. Quelle vérité importante, qui semble aller de fait, Ça semble aller de soi, mais on sait que ça ne l'est pas toujours. Même les gens qui se revendiquent du caractère central de la parole dans leur vie, dans leur église, très très souvent de fois, la parole devient marginale. Donc, c'est par la parole de Dieu qu'il en est venu à son apprentissage. C'est pas par une espèce d'introspection, en se regardant le nombril, là, comme on dit. C'est pas par l'étude de quelques philosophies ou anthropologies ou quelques sciences que ce puisse être. Et ces sciences-là, bon, elles ont leur raison d'être, là, mais elles ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Alors, l'auteur nous dit qu'il a appris par la parole de Dieu. Tout simplement parce que la parole de Dieu, c'est l'outil pour faire de nous des êtres accomplis. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça veut dire que l'écriture est l'outil pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit parvenu, soit bien équipé et propre à toute bonne œuvre. Jusque-là, la loi se voulait un ennemi juré, nous dit-il, parce qu'effectivement, depuis la chute, nous sommes tous sous la condamnation de la loi. Qu'on le sente ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Le criminel qui se présente devant le juge et qui va dire « Votre honneur, je ne me sens pas coupable », peut-être que subjectivement, il est tellement aveuglé par son propre crime qu'il ne se sent pas coupable, mais objectivement, il le demeure quand même. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, un tous très inclus. » Et qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché sinon la transgression de la loi de Dieu qui nous est donnée en résumé dans les 10 commandements? Cependant, l'auteur dit avoir imploré le calvaire, hein, dans son cantique, c'est-à-dire qu'il est venu au Christ pour recevoir pardon et justice. Comment est-ce qu'il a reçu la justice? Il ne l'a pas achetée. Il ne l'a pas acquise, hein? Elle a été imputée, elle lui a été placée à son compte parce qu'il a cru. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Voyez-vous, la loi c'est un miroir. Hein? Lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on voit qu'on est sale, qu'est-ce qu'on fait? On prend le miroir et on se lave. Hein? Le miroir ne peut pas nous laver. Ce n'est pas du tout le rôle du miroir. On s'en va là où il y a de l'eau. On va au calvaire, l'eau pure de la parole, le sang du Christ Jésus qui nous lave de toute iniquité. Éphésiens 1:7 nous dit « En lui, en Christ Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Amis auditeurs qui nous écoutez présentement, avez-vous reçu ce pardon-là? Êtes-vous allé au calvaire ou si vous avez encore la face dans le miroir? Troisième strophe.
Maintenant, j'ai tout donné à Jésus. Maintenant, je le reconnais comme mon roi. Et maintenant, mon âme ravie ne chante que du calvaire.
Voilà, nous avons dans cette strophe, bien sûr, le vocabulaire du rachat, hein, le vocabulaire de la rédemption. C'est ça que ça veut dire, le mot rédemption, veut dire rachat, racheter. Et puisque j'ai été racheté, ben je ne m'appartiens plus. Aussi, ma vie est cédée à mon rédempteur. Passez-moi l'expression, à mon racheteur, hein. Alors après la justification au calvaire, commence une vie de sanctification progressive au quotidien, alors que je grandis dans l'obéissance au Seigneur, selon ce qui m'est révélé dans sa parole. Et j'insiste sur le fait que la sanctification, elle est progressive. Hein? On ne monte pas les marches aussi vite qu'on serait porté à le vouloir le croire, et même qu'on le désirerait. On a même l'impression qu'on en monte deux, on en descend quatre, on en monte une, hein? Mais on sait que le Seigneur nous a promis de compléter, de perfectionner la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Quatrième strophe.
Ici, c'est l'âme, je crois, qui s'émerveille devant tout ce qui s'est passé. Oh, l'amour qui a conçu le plan de salut. Oh, la grâce qu'il a rendue disponible aux hommes. Oh, le fossé énorme que Dieu a traversé au calvaire, et j'ajoute le refrain. La miséricorde y était grande et la grâce était gratuite. Le pardon y a été multiplié envers moi. Mon âme encombrée y a trouvé la liberté au calvaire.
Le mot miséricorde est un des plus beaux mots qu'on retrouve dans la parole de Dieu, avec le mot chesed, bien sûr, le mot bonté de Dieu. Mot miséricorde qui vient du latin misericardia, qui veut dire littéralement un cœur pour la misère. Notre Dieu a eu notre misère à cœur, hein? Tant et tellement qu'il a donné son Fils unique afin de nous en retirer. Alors nous retrouvons dans cette strophe une succession d'images dépeignant le plan du salut, la merveille de l'incarnation. Le gouffre du péché qui sépare l'homme de Dieu en est un qui est infranchissable, hein, en autant que l'homme est concerné. Il n'y a aucune échelle de Jacob, il n'y a aucune tour de Babel qui peut nous permettre de monter jusqu'au ciel. En Éden, nos premiers parents, sur la suggestion du serpent, ont voulu se faire Dieu. C'était bien là le mensonge de Satan. « Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. » L'homme donc a tenté de s'envoler ainsi jusqu'au ciel, pour finalement et rapidement se retrouver dans la poussière du sol. Satan, le monde, le péché, ne livre jamais la marchandise, jamais la marchandise. C'est ainsi que Dieu s'est fait homme, pour venir racheter l'homme qui avait voulu se faire Dieu. Seul Dieu pouvait franchir la distance qui nous séparait de lui. Il s'agit bien sûr d'une distance qui se mesure en termes de justice parfaite, hein? Il ne s'agit donc pas de dire que nous allons faire quelques bonnes œuvres en espérant que dans la balance, elles pèsent plus lourdes que nos mauvaises œuvres. Ce sera alors une justice immensément relative. La parole de Dieu est catégorique. Rien, rien, strictement rien d'impur, rien de souillé n'entrera au ciel. Pour avoir accès au ciel, il faut une justice parfaite. C'est-à-dire que nous sommes tous d'entrée de scène disqualifiés. Mais voilà qu'intervient le calvaire. C'est quoi le calvaire? Ben c'est là où le Christ est allé mourir, est allé porter le châtiment que méritaient nos fautes. Il est allé porter la séparation d'avec Dieu, parce que l'enfer c'est la séparation de la faveur de Dieu. Hein? Il est allé porter l'abandon du Père pour que nous-mêmes nous ne soyons pas abandonnés et par la foi nous recevons, comme on le dit tellement souvent, une justice qui nous est imputée, une justice parfaite qui est la justice de Dieu. Hébreux 10, 14 nous dit « Car par une seule offrande, il, Jésus, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est pas étonnant que ce cantique soit aussi joyeux et rythmé. Il nous invite, nous les croyants, alléluia, à célébrer.
Oui, oui, effectivement, toute une célébration. Alors, permettez-moi de vous parler un peu de l'histoire de ce chant. Une histoire aussi qui est très personnelle. Je suis édifié en pouvant donner l'histoire. L'histoire qui nous dépeint le portrait de l'auteur du cantique a été racontée par le Dr. R.A. Torrey, qui a alors été président de Moody Bible Institute. Né dans la ville de Savannah, en Ohio, le 22 mai 1868, notre auteur William Newell était fils d'un pasteur. Le jeune, paraît-il, était en train de causer pour lui-même et pour sa famille un paquet de problèmes. Son père croyait que la seule solution pour ce fils à vie tellement désordonnée serait qu'il soit soumis, en compagnie d'autres jeunes gens, à l'enseignement de la parole de Dieu sur une base quotidienne. Tout en compatissant aux sentiments du père, Torrey lui disait que c'était bien une école biblique, son institution, non pas une maison de redressement, mais le père suppliait à ce qu'il prenne son fils, à ce qu'il l'accepte. Alors le jeune, il disait, il peut s'inscrire, mais à condition qu'à la première occasion d'échec académique, il sera quand même renvoyé. Alors Torrey nous raconte ce qui suit. Inscrit, mais turbulent et plein de problèmes, surtout spirituels, le jeune Newell a néanmoins fait des progrès. Il n'a pas manqué à ses devoirs. Après des mois de prière et de direction au moyen de la Bible, il est arrivé devant moi un matin, visage rayonnant, et je savais que Dieu avait répondu. Ce qui avait semblé impossible au départ, Dieu l'avait quand même réalisé. Le jeune rebelle est devenu par la suite un étudiant exceptionnel, et à la longue lui-même un enseignant doué des vérités bibliques, et moi j'ajoute à la longue directeur adjoint à Moody.
Bon.
Des années plus tard, Newell a fait cette déclaration qui peut donner, je crois, de l'espoir aux parents qui cherchent la grâce de Dieu pour un enfant errant. « Si je n'étais pas passé par cette expérience peu agréable en son temps, je n'aurais peut-être jamais connu l'importance de la parole de Dieu et la vérité merveilleuse du salut par la grâce, que ma place avait été prise au calvaire par l'unique Fils de Dieu. J'ai décidé un jour de décrire cette reconnaissance sous forme d'un poème » que j'ai partagé par la suite avec le Dr. Towner, un de mes collègues au département de musique à l'Institut. Et une heure plus tard, l'air a été composé par ce même Dr. Towner, et le cantique n'a cessé de grandir en popularité depuis ce jour. Il a trouvé sa place dans une collection de chants, d'abord en 1895. Alors pour moi, c'est toute une belle histoire, ça.
C'est absolument extraordinaire comment la grâce de Dieu peut prendre un voyou et en faire un saint, n'est-ce pas, qui va chanter les louanges du Seigneur. On pense à Augustin, hein. On a plein, à Adoniram Judson, on a plein d'histoires extrêmement encourageantes dans l'histoire de la rédemption, justement, pour nous encourager lorsque nos enfants, parce que nos enfants ne viennent pas au monde sauvés, et ils le manifestent assez tôt, et parfois le salut peut prendre un certain temps à venir, hein, et ce n'est pas sans causer, bien sûr, beaucoup de chagrin au cœur des parents qui les aiment tellement. Et nous avons plein d'espérance que notre Dieu, dans sa miséricorde, va les amener au calvaire.
Et l'histoire de Newell nous donne cet encouragement.
Voilà, en effet. Amen. Alors, nous allons écouter une autre version.
J'ai une autre mise en musique, Raymond, cette fois-ci. Ça sera Terry Warren qui va nous chanter, guitare et batterie à l'appui.
Oui.
At Calvary.
Ah, là, on va changer un peu de rythme, je crois, n'est-ce pas?
Un petit peu.
Alors, écoutez, ça va mettre également un terme à notre édition de ce matin. C'était très agréable d'être là. Ça a été très agréable d'écouter également les versions de ce cantique-là. Enfin, la première nous a beaucoup bénis et je suis persuadé que la seconde le fera de même. Nous vous remercions pour votre écoute aussi encore là ce matin. Nous vous espérons vraiment un bon samedi, un bon week-end, un beau jour du Seigneur demain. Nous voulons croire que vous aurez un peu de temps pour vous reposer, hein, parce que le jour du Seigneur, c'est un jour de célébration et d'adoration, mais c'est aussi un jour de repos, un repos pour nos corps et un repos pour nos âmes. Et nous espérons vous retrouver à la prochaine. Entre-temps, on vous rappelle que l'édition de ce matin vous revient en rediffusion cet après-midi à 17h30. Donc, bon week-end, chers amis, et à la prochaine.
I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me he died at Calvary. Mercy there was great and grace. Salvation's plan. Oh, the grace that brought it down.